Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là. Nous allons parler maintenant de récits angoissants et de personnages inquiétants que nos invités ont mis en scène dans leur roman, dont nos quatre invités. Donc à ma gauche, Christophe Nicolas, qui a donc écrit plusieurs romans dans le genre thriller, roman policier. Celui qui est sorti l'année dernière s'appelle Le Camp, et le tout dernier s'appelle Chute, où il met en scène un personnage qui s'appelle Thomas Cahun, qui a publié un livre pour la rentrée littéraire, un livre qui a énormément de succès, appelé au plus prestigieux prix, quand tout à coup, au début du roman, il reçoit des menaces. On lui demande de se dénoncer parce que quelqu'un l'accuse de plagiat. À ses côtés, Éric Gauthier, qui est québécois, comme vous allez l'entendre, et qui a publié trois romans. Celui auquel on va s'intéresser s'appelle « La grande mort de mon oncle morbide », où on va rencontrer des personnages, une jeune femme en particulier qui s'appelle Élise et qui est chargée de préparer une fête pour un mystérieux client. Elle fait partie d'une famille assez étrange. Elle a une vieille tante qui lui dit que le rôdeur est de retour, et elle a aussi un oncle, donc le fameux « Mon oncle morbide » du titre, qui a jadis joué dans une série télé. Et qui, cet oncle a un nouveau colocataire qui s'intéresse énormément à cette série télé qui a bercé son enfance. À ses côtés, Ron Marty, qui a publié deux romans, « Les enfants de Picoud » et le tout dernier qui vient de sortir, qui s'appelle « La mer des eaux », dans lequel on va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Émilie, et qui vient de subir à nouveau une fausse couche, donc qui est assez désespérée en début de roman. Et elle va recevoir un coup de fil d'un notaire qui lui dit que, bien qu'elle soit orpheline, sa mère est toujours vivante, sa mère naturelle est toujours vivante, et sa grand-mère vient de mourir et lui a légué une maison en Louisiane, parce que tout ça se passe aux États-Unis. Et à ses côtés, Emmanuel Chastelière, pour un roman qui s'intitule « Le village », qui est sorti en 2016, où on va, dès les premières pages, rencontrer une jeune fille qui se réveille dans un endroit qu'elle ne connaît pas, un village a priori désert, elle-même étant totalement amnésique. Alors, pour le lecteur, le premier contact avec un livre, c'est souvent sa couverture. Alors vous bénéficiez de couvertures tout à fait parlantes. Alors on n'a pas la couverture du camp, parce qu'on n'a pas le livre, mais un personnage, on voit un personnage avec un collier métallique autour du cou. Et je ne sais pas si vous les voyez bien, mais vous viendrez jeter un œil dessus. Par exemple, Éric Gauthier, votre couverture est assez bizarre, assez étrange. Est-ce que vous avez quelque chose à dire quand votre éditeur choisit une couverture? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous donnez des directives ou votre avis sur une couverture, Éric, par exemple?
Personnellement, j'étais plutôt chanceux avec ça, plutôt choyé jusqu'ici. J'ai proposé, c'est moi-même qui ai proposé cette illustratrice-là en particulier, qui est une collaboratrice, on blogue ensemble. C'est une illustratrice habituée de la maison, déjà, de toute manière. Et puis, je suis heureux de ce que ça a donné. C'est un roman qui est difficile à... Qui peut être un petit peu difficile à cerner, un peu difficile à illustrer, mais j'ai aimé qu'elle aille dans le foisonnement comme ça, les éléments hétéroclites un peu. Ça représente, je trouve, l'énergie du personnage principal.
Emmanuel, votre couverture, vous aussi, est tout à fait intrigante.
Oui, moi j'ai eu la chance de bénéficier d'une illustration de couverture de Marc Simonetti, qui était d'ailleurs nommé au prix Imaginal cette année pour son travail. Et j'ai aussi eu la chance à double titre du fait qu'il ait lu le roman en fait avant de l'illustrer. Je sais que c'est pas toujours le cas ou toujours possible. Et là, Marc avait pu le lire, bon, pas la version finale, mais une version suffisamment proche de ce qui se retrouve là imprimé, ce qui lui a pu lui permettre évidemment de mieux se faire au sujet, et de vraiment s'imprégner de l'ambiance du roman pour la retranscrire en images. Et j'aurais vraiment, c'est logique de dire ça en même temps, mais c'est vrai que je ne pouvais rêver mieux comme illustration de l'ambiance de ce que moi j'ai voulu retranscrire avec mes mots.
Elle vous plaît, votre couverture, Christophe ? Celle-ci et puis celle d'avant. Celle d'avant m'avait tellement marqué. C'était terrible.
Donc moi, je n'ai pas eu mon mot à dire du tout. C'est-à-dire que si je ne m'y étais pas intéressé, moi, à demander quelle couverture on allait avoir, je l'aurais su au moment de la sortie. Pour le camp, du coup, comme toi et d'autres qui ont été intrigués, donc on voit une photo cadrée très serrée d'un collier métallique sur un corps gris rachitique. Et on me demandait d'où ça vient. Alors, j'en sais rien, donc j'ai envoyé un mail à l'illustrateur que j'ai trouvé moi-même sur Internet. Et il était étonné d'entrer en contact avec un auteur. Donc il était ravi de m'expliquer d'où ça lui venait, donc je le sais. Pour lui, c'était la scène d'autopsie, donc c'était comme une photo tirée de l'autopsie où il y aurait eu un gros plan de ce collier. Donc là, on ne la voit pas, mais venez la voir au stand. Et celui-là, l'éditeur, je sais qu'apparemment, c'est l'éditeur qui donne une direction à l'illustrateur avec un résumé de l'histoire ou un passage en particulier. Et là, il ne trouvait rien, il ne savait pas comment illustrer le roman, jusqu'à ce que l'illustrateur propose apparemment cet effet typographique. Il y a juste le titre qui tombe. Et là, j'en suis très content. C'est très impactant. Donc, j'en suis très content.
On va se pencher un peu sur les situations de départ dans vos romans, où on trouve souvent des... Je vais commencer par vous pour la question suivante. Je vais pas... dans la situation de départ, on a des personnages qui sont très... fragilisés en fait par la vie, qui se trouvent dans des situations professionnelles, amoureuses ou émotionnelles difficiles. Donc Rod Marty, vous avez donc choisi ce couple et Emily. Donc elle est, quand on la prend au début du roman, dans une situation très difficile.
Oui, parce que la première scène est une scène de fausse couche. Donc c'est sa troisième fausse couche. On apprend assez rapidement que suite à cette fausse couche, elle ne pourra jamais plus essayer de porter la vie. Donc oui, elle est assez fragilisée. Donc elle-même, son seul objectif dans la vie à ce moment-là de son existence, c'est de devenir mère. Et c'est à ce moment-là justement qu'on l'avertit que sa propre mère, à elle, qu'elle n'avait plus aucun espoir de rencontrer, est toujours vivant. Donc il y a une histoire qui porte sur toute sa famille, sur toutes les femmes de sa famille, une espèce de boucle qui va être apportée dans cette histoire et qui est une boucle sur toutes ses ascendantes qui dure depuis 2 siècles et dans laquelle d'un seul coup elle va plonger et je vais pas trop en dire.
Non, ça va être difficile en fait de présenter les choses sans trop en dire, parce que ce sont des thrillers, donc on découvre beaucoup de choses au fur et à mesure qu'il ne faut évidemment pas dire, juste suffisamment pour vous donner envie. Et c'est important, cette fragilité, pour mettre en place l'obsession en fait.
Je sais pas si la fragilité est importante, mais l'obsession, moi, c'est ce qui va le plus m'intéresser. Je pense qu'on peut faire un récit angoissant à partir de personnages qui sont pas forcément les plus fragiles et les fragiliser par la suite. Ensuite, l'obsession d'Emily, c'est une obsession qui l'amène à tout remettre en question dans sa vie, que ce soit son mari, que ce soit son travail. Elle ne pense plus qu'à ça, donc elle est prête à tout perdre pour réussir à parvenir à devenir mère. Donc ça m'intéressait de travailler surtout sur l'obsession plus que sur la fragilité, même si la fragilité est là aussi.
Éric Gauthier, votre héroïne aussi, au départ, elle est en situation d'échec professionnel, en situation d'échec amoureux. Donc, a priori, elle est prête à pas mal de choses pour réussir, pour un peu se sortir de ce qu'on va appeler une malédiction familiale.
Oui, oui, Élise, c'est quelqu'un, c'est une jeune femme qui se cherche, si on veut. C'est une artiste touche à tout. C'est quelqu'un qui a le goût de tout essayer. Et puis, à tout essayer, on trouve, on risque de s'éparpiller. Donc, elle a l'impression de ne pas avoir trouvé sa voie encore. Et puis, au début du roman, elle se retrouve face à un énorme défi professionnel de travailler au décor, à l'organisation d'une fête somptueuse pour un très riche client. Et puis, comme la vie est jamais simple, c'est à ce moment-là, alors qu'elle est face à ce défi-là, que les légendes de sa famille reviennent la hanter. Donc, elle est déjà fragilisée professionnellement, et puis elle est fragilisée un peu par la manière dont elle a grandi au sein d'une famille qui colporte des légendes inquiétantes un peu, une famille où les gens ont des dons, mais en parlent si peu qu'elle-même n'est pas certaine. Elle sent un don, mais elle-même n'est pas certaine de ce que ça signifie, où est-ce qu'elle peut le pousser. Donc, elle en a beaucoup à découvrir, et puis tout lui arrive en même temps.
Le lecteur non plus, c'est pas bien en fait de quel don il s'agit. Vous donnez des petits détails, des petites précisions très progressivement.
Oui, je suis allé plutôt graduellement avec ça. J'avais envie de prendre le temps de faire connaissance avec les personnages, donc avec Elise, avec son vieil oncle, avec le terrible Steve aussi. Il y avait des frictions intéressantes entre ces personnages-là, je trouvais, et puis j'avais du plaisir simplement à écrire leur désaccord, et puis graduellement, on permet au lecteur de comprendre, de connaître les aspects fantastiques de l'histoire qui viennent à se dégager.
Et c'est important, l'ancrage réaliste, justement, de donner aux gens une histoire familiale, un passé, beaucoup de détails sur leur vie, pour ensuite qu'il y ait une rupture avec ces éléments irrationnels. C'est important, d'abord, d'être ancré dans le réalisme.
C'est pas, de mon point de vue, c'est pas nécessaire. Et puis, j'aime varier. D'une histoire à l'autre, j'aime varier les approches. Mais avec celle-là, j'avais envie que ce soit très réaliste, donc que les gens puissent se reconnaître dans l'un ou l'autre personnage, dans les décors aussi. Ça se passe à Montréal, ça se passe à Sherbrooke, où j'habite. Et puis, il y a un peu là-dedans de ce que Joe Walton, déjà en entrevue, appelait la plausible deniability. Le déni plausible, l'idée qu'on présente un fantastique qui est tellement discret qu'il n'en existe pas de preuves. Et puis le lecteur, en se lisant ça, peut se dire « Oui, si ça se pourrait que du fantastique comme ça existe et puis que je ne l'ai pas remarqué. » Alors que quand on lit une œuvre fantastique un peu plus, qui décolle un peu plus, où les gens se lancent des sorts à grand renfort de boules de feu ou quoi que ce soit, ben, s'il y avait eu une bataille de boules de feu en plein dans le métro de Montréal, ça se serait su. Mais tout ça pourrait se passer réellement sans qu'on l'ait su, et puis ça pourrait être vrai.
Quels sont les rapports du réalisme, Rod Marty, entre cette situation hyper réaliste de départ et le fantastique qui est introduit notamment beaucoup par un autre récit qui se passe bien loin dans le passé?
Alors pour moi, enfin, le réalisme est super important. Pour moi, le fantastique ne sert est un prétexte en fait pour aggraver la situation et pour mettre les personnages face à leurs maux. Donc c'est un moyen rapide de pouvoir leur faire affronter leurs propres démons. Mais à la base, le personnage, le caractère et la façon dont je le présente. Ce que j'essaye de faire, en fait, c'est que le lecteur se sente le plus proche possible de ce personnage, comprenne sa vie et puisse le prendre pour un de ses voisins ou pour quelqu'un qui puisse réellement exister. Donc le rapprochement, je pense que plus le lecteur sentira proche du personnage et plus, justement, vu le thème, plus il angoissera par la suite par rapport aux événements.
En se disant que ça pourrait lui arriver.
Exactement, c'est ça qu'il faut.
Emmanuel Chastelière, vous procédez pas tout à fait de la même façon, parce que vous, on est directement plongé en fait dans une situation bizarre, inconnue.
Oui, bah c'est en somme, c'est vrai que le point de départ d'un héros ou d'une héroïne qui se réveille amnésique n'est pas très original en soi, mais je voulais partir de cette figure-là pour essayer d'explorer un autre genre de fantastique, on va dire, un peu plus porté sur une dimension onirique, si l'on veut, mais qui se rattache aussi parfois à un réalisme assez cru, ce qui fait que l'équilibre entre les deux m'importait beaucoup. Et je voulais aussi que le lecteur puisse se poser les mêmes questions que le personnage principal au fil de son exploration des rues du village et de ses alentours, du coup. C'était une façon de vraiment rattacher le lecteur au personnage, puisque forcément, un personnage, on préfère avoir de l'empathie pour lui. Mais évidemment, en attendant que cette empathie se crée, j'aimais aussi le concept de se mettre dans ses pas, un peu comme comme pour mener l'enquête aussi, si l'on peut dire.
Parce que les relations entre les personnages, parce qu'on peut dire qu'elle va rencontrer d'autres personnages dans ce village, eux, par contre, sont très réalistes. Ce sont des adolescents. Enfin, il y en a des très jeunes et d'autres un peu plus vieux. Mais il y a, par contre, oui, leurs relations entre eux sont, elles, quant à elles, très réalistes.
Oui, c'est quelque chose aussi qui me tenait à cœur. Bon, là, il faut que je fasse un instant de confession. Je n'ai jamais lu Sa Majesté des Mouches. Pardon. Désolé, c'est très mal, je sais. Et je dis ça parce qu'on m'a plusieurs fois fait le parallèle. Mais c'est vrai que je tenais justement... Bah, là, l'âge de l'adolescence, c'est quelque chose où se forge beaucoup, je trouve, de la personnalité de ce que l'on devient après adulte. Et moi, c'était quelque chose qui vraiment me parlait. J'avais envie de plonger mes personnages là-dedans, dans ce bouillonnement et dans ces interrogations qu'on peut avoir vraiment à fleur de peau au fil des jours, et surtout dans un contexte un peu de huis clos, qui fait que les réactions et les relations au sens large sont facilement exacerbées.
Christophe Nicolas, donc dans ce dernier roman, Chute, il n'y a pas d'éléments fantastiques ou irrationnels. Dans le précédent, il y en avait. Quels sont vos rapports avec ce fantastique ou cet irrationnel ?
Que ce n'est pas obligatoire. C'est pour faire un récit inquiétant, il n'y a pas, obligation d'un élément irrationnel ou fantastique. C'est des situations, la mise en danger des personnages, l'angoisse des personnages, du lecteur pour le personnage, et aussi quelques techniques d'écriture qui font que ça rend le récit angoissant de la façon dont se raconter. Parce que contrairement au cinéma où ils ont la musique, ils ont les effets de surprise, là c'est une autre façon de faire. Et que ce soit fantastique ou pas, donc moi je suis d'accord que pour que le fantastique ou la science-fiction ou quoi que ce soit, l'élément étrange soit crédible, il faut que le reste de l'histoire soit très 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 crédible, très ancré dans le. Et plus on rendra crédible les éléments non fantastiques, plus le côté étrange paraîtra crédible, parce que justement, on n'a pas trompé le lecteur jusque-là, donc il n'y a pas de raison que ce qui se passe maintenant ne soit pas aussi vrai que ce qu'il y a avant, si c'était la question que j'ai oubliée.
Tout à fait. Éric Gauthier, je crois que vous êtes aussi conteur.
Oui.
Et vous comptez aussi dans le même genre, des histoires dans ce genre-là aussi, de fantastique ou...
Je me suis rendu compte qu'en moyenne, je suis plus léger quand je raconte sur scène, et puis plus sinistre quand j'écris des romans et puis des nouvelles. C'est en partie simplement parce que c'est plus facile de faire rire les gens que de les effrayer. Par plus facile, je veux dire, quand on est sur scène, c'est réconfortant quand les gens rient. On sent tout de suite qu'ils sont avec nous, on sent que nos effets sont bien placés, tandis que un public qui est terrifié ou un public qui s'ennuie, c'est également silencieux. On arrive quand même à sentir l'énergie de la salle, c'est certain, mais je suis plus léger quand je raconte.
Parce que justement, je me demandais, comme dit Christophe, le cinéma a d'autres moyens pour faire peur. Mm-hmm. Quand on est conteur et qu'on veut faire peur, est-ce qu'on a d'autres moyens par rapport à celui de l'écriture ? De quoi vous bénéficiez dans l'écriture dont vous ne bénéficiez pas quand vous êtes sur scène et que vous essayez d'effrayer le public ?
Il y a une variété de moyens, c'est certain. Avec le conte, il y a la bête jump tale qu'on appelle, où est-ce qu'on raconte l'histoire de façon très, très, très subtile. On raconte tout bas, et puis à un moment donné, le monstre sort, et puis « Ah! » Juste un cri du conteur, ça fait sursauter tout le public. C'est le truc le plus cheap qui soit, le truc le plus bête. Mais sinon, ouais, juste avec le ton de voix, juste avec la cadence, on peut installer des ambiances. Si on a pu préparer la salle, on peut avoir l'éclairage aussi qui joue. Maintenant, une chose qui me manque un peu quand je raconte, c'est la subtilité qu'on peut placer sur une plus longue durée. Souvent, mes contes vont avoir 10 minutes, 12 minutes. C'est une courte nouvelle. Et puis, avec le... Ben déjà, sur la longueur d'un roman, on peut vraiment obtenir un effet cumulatif, placer une foule de petits indices qui vont venir déstabiliser le lecteur graduellement. Donc ça, on peut vraiment jouer avec ça. Il y a un petit peu aussi le public. J'ai essayé déjà, dans mon premier recueil de contes, j'ai une histoire qui s'appelle Métro, qui est une histoire angoissante et affreuse au sujet du métro de Montréal. Et puis ça marche pas pour tout le monde. Quand je la raconte, il y a des gens qui embarquent, mais comme c'est du pur fantastique, cette histoire-là, c'est pas dans un mode merveilleux, c'est pas dans un mode typique du conte. Il y a des gens pour qui le fantastique, ça prend pas. Tandis qu'avec un livre ou une nouvelle, si c'est publié dans un contexte de fantastique, les gens qui vont prendre le livre sont prêts à ça déjà, et puis ils vont mieux le recevoir.
Christophe, Nicolas, Éric Gauthier parle de rythme. Alors, quand on lit vos romans, les thrillers, on appelle ça des page-turners. Le rythme, c'est important?
Ben, le rythme, justement, quand j'ai failli intervenir, c'est que l'avantage du conteur sur l'écrivain, c'est qu'il peut varier sa voix, justement, jouer avec sa voix. Il y a certaines phrases qui, dites comme ça, le conteur peut les dire de façon interrogative, de façon... Quand c'est écrit, c'est écrit. Et la façon de que le lecteur prenne la fameuse phrase en question dépend de tout ce qu'il a lu avant. Et tout est dans quoi lui raconter dans les 3-4 phrases précédentes pour que la fameuse phrase en question, il comprenne que ce soit de l'ironie, soit du double sens, soit du... Et le rythme donc moi je suis musicien, je sais pas si ça compte, mais ça doit compter. C'est le rythme des phrases, c'est le rythme des mots dans les phrases, c'est le rythme des syllabes dans les mots, ce qui fait que c'est très long. J'écris très lentement aussi pour ça, c'est-à-dire que la phrase peut être correcte grammaticalement, correcte dans ce que je veux dire, mais elle me plaît pas parce qu'il y a deux fois peu. Et il faut que je la retourne, et le fait de la retourner, elle me plaît moins, donc il faut en trouver une autre. Et alors ça, c'est purement, c'est pas rythmique, c'est plus mélodique, on va dire. Mais la rythmique, ça... c'est comme les morceaux qui marchent le mieux de musique, c'est les morceaux réglés à 120 pulsations minutes, parce que ça correspond au battement du cœur excité. Et les morceaux de plus on monte la fréquence du rythme de la chanson, plus le cœur est censé suivre, et jusqu'au moment où il peut plus. Et en écrivant, on peut créer le même phénomène qui est en raccourcissant ses phrases, de créer une tension, une façon de que le lecteur lit sans s'en rendre compte de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, et c'est le moment où on met les faits. Quoi.
Ça vous parle, Emmanuel, cette façon de travailler un rythme comme celui-là?
Oui, tout à fait, parce qu'en plus, j'écris aussi des nouvelles, et c'est vrai que j'aime... soit dans un roman, c'est vrai que dès qu'on a terminé un chapitre, il faut donner envie de tout de suite enchaîner avec le suivant. Donc forcément, une fin qui claque, j'allais dire, c'est toujours intéressant. Et dans l'exercice de la nouvelle, c'est vrai que moi, j'ai un penchant pour les fins, quitte à ce qu'elles soient un peu abruptes ou dans le non-dit, parce qu'au moins, ça laisse le lecteur ça laisse des portes ouvertes au lecteur, en fait. Et j'apprécie cet aspect-là, qui est forcément moins développé dans le roman, puisqu'il faut bien quand même que les questions qui pourraient se poser, les réponses bah, il va les trouver à la suite. Mais c'est vrai que cette façon de construire une espèce de crescendo, oui, moi, ça me parle beaucoup et j'essaye vraiment de m'orienter là-dessus puisque bah, l'intérêt, c'est que le lecteur, lui, s'y retrouve aussi et n'est pas... Si le lecteur peut lire le roman d'une traite sans forcément le mettre en pause, moi, ça me va très bien. Donc oui, je partage tout à fait cette conception.
Oui, vous avez choisi quand même une construction en deux mouvements, en fait. On va suivre cette jeune fille et puis la communauté de jeunes gens. Mais par ailleurs, il y a un autre récit construit dans des interludes qui viennent en quelque sorte casser l'histoire des jeunes gens et qui va raconter l'histoire du village. Alors, peut-être à un autre moment, peut-être, enfin, en tout cas, une communauté plus adulte. Donc, ces deux récits, d'une certaine façon, se mangent tous les deux, se choquent.
Oui, c'est vrai que je trouve aussi qu'ils se nourrissent aussi. Mais c'est vrai que ça a toujours été, le roman a toujours été articulé comme ça, en fait, avec cette alternance de chapitres où on est vraiment plongé dans l'histoire de la jeune fille en question, et puis les interludes qui nous replongent dans le passé et les mystères du village avant que tout s'entrechoque dans la seconde moitié du roman. Et c'est vrai que je tenais aussi à cette variation pour le coup, parce que pour moi c'était important de lever le voile sans trop d'entretenir le mystère, mais tout en levant quand même un peu le voile sur l'intrigue principale et sur le caractère justement maudit, on va dire, pour résumer grossièrement, du village, et puis la dimension malfaisante d'un personnage en particulier autour duquel s'articule l'essentiel du roman. Donc je tenais à cette alternance que je n'ai pas poursuivie jusqu'au bout, parce que pour moi elle avait une fin vraiment précise qui devait s'arrêter là pour laisser place justement au final du roman lui-même. Mais c'était vraiment des interludes que j'ai pris plaisir à développer pour le côté, on va dire, background peut-être de l'univers, oui.
Et Rod Marty, votre roman lui aussi fait alterner les époques et les récits. Comment concilier ces deux narrations avec un rythme justement assez trépidant?
En fait, justement, le début du roman, au départ, on a deux personnages, donc le couple Christopher et Emily, où on est vraiment dans leur train-train quotidien jusqu'à leur départ dans la petite communauté où ils vont atterrir. Et à partir de ce moment-là, on suit le récit d'un personnage. Dès le départ, on sait que c'est celui qui a construit la ville, donc à la fin du 19e siècle. Et à partir du moment où ils entrent dans ce village, le fait d'avoir ce personnage qui intervient, on sait tout de suite, je pense, que ça va être lié directement à l'histoire aussi qui lie le couple à cette ville, parce que bien sûr, il y a un rapport direct qu'ils vont devoir découvrir. Et le fait ensuite d'avoir ces trois points de vue, ça permet d'accélérer au fur et à mesure. Je pense que dans tous les thrillers, de toute façon, on accélère de plus en plus le rythme jusqu'à ce qu'on ait la solution à tous les problèmes. Mais oui, de toute façon, le rythme reste au cœur de toute façon de la narration pour le thriller aussi.
Et vous avez choisi une nouvelle fois les États-Unis et un folklore en particulier. Dans le premier, vous étiez autour des traditions indiennes. Là, on est en Louisiane autour du folklore vaudou. Pourquoi vous vous attachez d'une part aux États-Unis et d'autre part justement, voilà, à ces différents folklores?
Alors, je m'attache pas aux États-Unis pour les États-Unis. Ce qui m'intéresse, c'est trouver des territoires qui permettent d'avoir des communautés suffisamment éloignées du reste pour pouvoir avoir un espèce de huis clos à l'air libre. Et ensuite, les croyances, c'est toujours un peu au cœur de ce que j'écris. J'aime bien explorer les croyances que certains ont, justement pour voir si c'est vrai ou pas. Donc j'aime bien ça.
Emmanuel, vous aussi, le huis clos, c'était essentiel, en fait, c'est qu'ils soient tous enfermés comme ça.
Oui, bah, je vais reprendre l'expression le huis clos à l'air libre, puisque c'est un peu le cas. Bah c'est aussi, c'est vrai que c'est le côté, on va dire, c'est comme une marmite en somme, et puis jusque qui couve jusque l'explosion, si on surveille pas le feu, ce que je vous déconseille de faire. Et du coup, oui, c'est vrai que c'était vraiment bah pour moi le cadre est important, mais ne doit pas non plus en fait servir de décor de théâtre. C'est-à-dire que pour moi, c'était important que ce soit un huis clos, mais qu'il laisse aussi une respiration suffisante au personnage pour qu'il puisse évoluer à l'intérieur sans forcément être vraiment prisonnier, si, puisque c'est le cas, mais prisonnier, on va dire, avec une à l'air libre, en somme, avec une respiration qui leur permet de parfois ne pas se concentrer uniquement sur leur but qui est de quitter le village si possible.
Alors, quitter le village, être enfermé dans le village, évidemment, on pense beaucoup au film de Shyamalan qui porte le même titre que le roman. Donc, c'est quoi le rapport ?
Pour moi, j'aime plutôt la filmographie du réalisateur, pas forcément celui-là. Ce qui fait qu'il n'y a pour moi aucun rapport. Je dirais que le principal fait, c'est que je suis assez mauvais pour les titres. Donc, le village, c'était le nom de code, on va dire, du roman. Et puis, en fait, finalement, j'ai pas trouvé mieux dans le sens où ça s'est imposé à moi, finalement, au niveau de l'intrigue. Et puis, l'importance même, malgré tout, du cadre. Donc, j'en suis resté au village. Mais je suis ouvert aux suggestions pour les prochains romans. J'ouvrirai une page spéciale pour que les gens puissent m'envoyer leurs idées par rapport au pitch que je proposerai. Voilà. Mais non, c'est un hasard, même si j'aime bien, en général, les films de ce réalisateur.
Éric Gauthier, vous... Donc le personnage inquiétant de votre roman, ce fameux mon oncle morbide qui s'appelle Edgar Malenfant, était jadis, quand il était plus jeune, parce que quand on le prend dans le roman, c'est un vieux monsieur, le héros d'une série télé, La Maisonnée. Alors, est-ce qu'elle existait, cette série télé ?
Il y a des Québécois qui m'ont posé la question. J'en ai fait une série de télé de Radio-Canada, donc j'ai inscrit ça dans le patrimoine culturel québécois. Et puis il y a des gens dans mon entourage qui m'ont posé la question. La série est inventée de toutes pièces. Ouais.
Et donc ce personnage, son nouveau colocataire, trouve que cet Edgar Malenfant... C'était un acteur, on va dire, il a beaucoup marqué sa jeunesse et qu'il y avait énormément de potentiel et qu'il est devenu quasiment pas grand-chose, quoi, rien du tout. Et il va essayer, d'une certaine façon, de le manipuler pour qu'il devienne enfin quelqu'un. On peut parler de cette manipulation ou on peut pas ?
On peut. Oui, on peut tout à fait. Et puis, ça m'amusait qu'il y a quelques personnages inquiétants dans ce roman-là. Déjà, oui, dans l'émission pour enfants, La Maisonnée, c'est le genre d'émission où est-ce qu'on mêle des acteurs, des personnages humains et puis des marionnettes, et puis on fait comme si c'était normal. Et puis, il y a mon oncle morbide, lui, qui habite dans le sous-sol de la maison, qui a sa cape noire avec l'envers pourpre, qui a sa chevelure blanche avec sa mèche noire, et puis qui est le personnage sinistre par excellence. Mais c'est un côté sinistre guilleret, disons. Il y a le sinistre joyeux. Et puis, ça c'est quelque chose que j'aimais explorer.
Très grincheux, quand même. Hein?
Le personnage qui jouait, le personnage Jean Lamaisonnet était légèrement grincheux. L'acteur l'est nettement plus, ou l'acteur l'est devenu plus, parce que l'acteur est rendu octogénaire au début du roman, et puis il est aigri de ses échecs, autant amoureux que professionnels. Il vit un petit peu en ermite, il s'est retiré du monde, et puis comme l'argent lui manque, il décide de sous-louer son appartement, et celui qui répond à l'annonce, qui va vivre avec lui, c'est un jeune homme qui au malheur, est un de ses fans, un fan de... Parce que pour Edgar Malenfant, le comédien, Mon oncle Morbide, c'est un rôle mineur. Lui, il a joué au théâtre, il a joué des rôles beaucoup plus profonds. Et puis là, bon, lui ramène ce vieux rôle-là. Son personnage, Mon oncle Morbide, était inquiétant. Edgar lui-même a quelque chose d'un petit peu mystérieux, parce qu'il fait quand même partie de cette famille-là, des Malenfants, qui a des dons, donc il est inquiétant à certains égards. Et Steve, lui, est tellement déçu par son contact avec le comédien qu'à la longue, il envisage de le tuer, il envisage d'orchestrer sa mort.
Formidable mort, digne ouais. de lui.
Oui, oui, exactement. Une mort digne du personnage, pas digne du comédien, parce que pour Steve, ce qui est important, c'est le personnage. Et puis, Steve en devient inquiétant parce qu'il veut tuer. En même temps, il est tellement peu convaincant comme assassin. C'est une espèce de grand échalas mou. Mais ce que j'espérais, c'est qu'il devienne inquiétant dans le sens qu'on s'inquiète pour lui un peu. On s'inquiète pour sa santé mentale. Donc, il y a différents degrés d'inquiétude dans ce roman-là.
Et il y a aussi de l'humour, hein, comme vous l'aurez compris. Donc, vous arrivez à faire cohabiter l'humour et ce fantastique et cette inquiétude, en fait.
J'essaye. C'est certain que ça se fait au dépens de la terreur. C'est pas un roman qui se voulait profondément terrifiant. Je crois pas que j'arriverais à installer une véritable atmosphère, le genre d'atmosphère qui vous hante, tout ça. Je pense pas que j'y arriverais avec la dose d'humour que j'ai mis là. Mais en même temps, il y a le personnage du rôdeur à côté de ça, la vieille légende familiale des Malenfants qui, ce personnage-là projette son ombre sur la famille et puis sur le roman. Et puis plus on avance, mais plus cette ombre-là devient présente.
Christophe, Nicolas, votre personnage de Thomas Cahin, cet auteur, le lecteur, c'est pas bien s'il doit le plaindre ou bien si finalement tout ça c'est bien fait pour lui. On est ballotté tout le temps, on se dit ben voilà, parce qu'on sait dès le début. Que c'est vrai, que c'est oui, pas lui oui. qui a écrit ce roman.
Donc il a effectivement pas écrit le roman en question.
Il décide de tout faire pour que personne ne le sache.
Oui, en plus c'est pour des raisons mesquines, un peu. C'est pas pour sauver l'œuvre, c'est lui. Il a écrit plusieurs romans qui n'ont pas été reconnus selon lui à sa juste valeur. Et là, il profite du succès en se disant ça fera aussi pour ceux d'avant qui méritaient aussi. Là, il se trouve qu'il n'a pas écrit, mais tant pis, quoi. Et lui, le roman, il le trouve pas mal, quand même. Et alors, la grande difficulté pour moi, c'était parce que je donne des extraits du roman en question, qui est un chef-d'œuvre, tout le monde s'accorde à dire que c'est génial. Et alors, je me suis... Donc, les extraits sont... C'est moi qui les ai écrits aussi, hein.
Mais... Vous n'avez pas volé le manuscrit ?
Non, 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 non. Et justement, le roman en question, c'est un roman. On se demande pourquoi il fait tant parler, parce qu'il est un peu glauque, un peu. Il se passe des trucs, mais c'est tellement beau, c'est tellement poignant, c'est tellement vrai. Et ça raconte notamment une scène de torture, un meurtre un peu odieux, un peu dégueulasse. Et il se trouve que donc la première scène, ça se passe à la télévision où justement c'est le sacre, l'auteur en question, il se fait à la fois acclamer pour son nouveau roman et démonté pour ses anciens. Mais c'est pas grave parce que comme c'est un génie, il peut prendre les critiques des anciens parce que maintenant c'est un grand auteur. Sauf que lui sait que les anciens c'est lui, le nouveau c'est pas lui. Donc il le prend assez mal et. Et donc, pour montrer à quel point c'est génial, le présentateur lit un extrait. Le fameux extrait qui va être entendu à l'autre bout de la télé par un policier à la retraite, et ça va lui rappeler une vieille histoire non résolue d'il y a 10 ans. Donc, en plus d'avoir les lettres de menace, il va avoir ce policier-là sur le dos. Enfin, il est mal pour garder son secret. Et en fait, il y a le critique littéraire de l'émission qui nous explique que chaque passage en question, c'est pas génial, mais le tout, c'est grandiose. Et comme moi, je vous livre quelques passages sans le tout, c'est peut-être pas génial, mais faites-moi confiance. Donc, c'est ma façon de m'en sortir, quoi. Et la question, c'était ? Ça ?
Je vous demandais si le personnage, en fait, ce Thomas Cain, il fallait le plaindre.
Ah voilà,
ou bien,
rien
si...
à voir. Oui, ben non, si, un peu à voir, puisque c'est un escroc, donc ses intentions sont mauvaises. Mais au fond, donc moi, pour le coup, c'est un huis clos dans sa tête, un peu. Puisque ça se passe beaucoup dans sa tête. Il se passe beaucoup de choses aussi autour. Et on se rend compte assez rapidement que derrière ce succès-là, il met d'autres choses plus personnelles, plus profondes. Il n'a pas seulement peur de passer pour un usurpateur, un plagiaire ou quoi que ce soit. C'est qu'il a peur de perdre la reconnaissance et l'amour de sa femme. Qui croit-il ? Il n'a que parce que... Elle, par contre, elle aimait bien les anciens romans. Elle trouve le nouveau meilleur, hein. Mais et il y a sa mère qui est en train de mourir aussi et qu'il a jamais trop aimé, et qui se dit que si je passe à la télé, peut-être qu'elle m'aimera plus. Il sait qu'en perdant ce succès-là, il perdra pas juste son honneur, il perdra.
Il est tourmenté. Hein.
Oui, mais moi je peux pas dire que je l'aime, ce personnage. Hein. Et c'est tout le. Le tour de force, c'est d'essayer quand même de faire plaindre ou de s'inquiéter pour lui, alors que, objectivement, s'il se fait avoir, bien fait pour sa gueule, quoi. Mais, à ce qu'on m'a dit, j'arrive à installer... Parce qu'on est tous un peu mesquins, aussi. Et on arrive aussi à se mettre à sa place en se disant, si j'étais lui... Qu'est-ce que je ferais ? Et on se rend compte qu'on ferait pas loin de ce qu'il fait, quoi. Mmh.
Ron Marty, vos personnages, alors ceux qui sont du temps présent, on est beaucoup en empathie avec eux parce qu'il leur arrive des choses un peu difficiles. Mais ceux du passé, ceux qui sont un peu loin, alors vous en direz ce que vous voudrez. Hein, et notamment celle par qui la malédiction arrive. Alors là, c'est un peu pareil, ce personnage. Est-ce qu'on est en empathie avec
Mais je pense que dans tous les personnages de mon roman, en fait, on a une part d'empathie et on les condamne tous un petit peu. Ça va pas tous dans le même sens. C'est-à-dire que le couple, on commence avec de l'empathie, à les plaindre, à se dire le pauvre couple, ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Plus on progresse dans le roman, plus on voit ce que la femme est prête à faire pour avoir un enfant et plus on voit certains secrets du mari. Donc, qui nous font un peu revenir sur notre empathie pour eux. Et pour tout ce qui est des personnages du passé, ça va dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'au départ, on les condamne pour ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, plus on creuse dans leur passé et plus on commence à avoir de l'empathie pour eux. Donc, de toute façon, pour tous les personnages, enfin, on ne peut pas être dans une pleine empathie ou dans une pleine condamnation. Il n'y a pas de gentil, pas de méchant. C'est juste des humains, quoi qu'il arrive, qui essayent de s'en sortir avec leurs propres moyens. Et ensuite, c'est au lecteur de savoir si, au final, on les aime ou pas.
Justement, ce dévoilement progressif des personnages, ça va aussi avec le dévoilement de l'intrigue. Et ce qui me semble important... Dans un thriller ou dans un roman inquiétant, c'est la part entre ce que savent les personnages et ce que sait le lecteur. Ouais. Et ça me semble être une alchimie très pointue. Parce que est-ce que les personnages, le lecteur doit en savoir plus que le personnage ? Est-ce que les personnages savent tout de l'intrigue ? Comment est-ce que ça ? Alors ça, c'est à tous les quatre un peu que je pose cette question-là pour faire monter un certain suspense. Comment est-ce qu'on dose ce que savent les personnages, ce que savent les lecteurs ? D'abord, Rod Marty, parce que vous parlez trop.
Je voulais juste donner la définition du suspense d'Hitchcock qui, pour moi, résume le truc. Après, vous direz ce que vous voulez. C'est que c'est l'histoire, c'est deux bonhommes qui discutent à une table. Ils discutent de tout, de rien. Et il y avait une bombe sous la table et elle explose, ils sont morts. Super. Donc on est surpris, on a peur. L'autre façon de le raconter, c'est de montrer la bombe sous la table et de voir les gens discuter de tout de rien avec le décompte 50, 49. Le suspense, c'est ça, c'est qu'il faut que le lecteur sache qu'il y a la bombe, sinon c'est des types qui discutent, on s'emmerde. Quoi. C'est Hitchcock, hein, c'est une traduction littérale. Hein.
Alors de mon côté, dans le roman, le lecteur en sait toujours plus que les personnages, hein, parce que j'ai plusieurs personnages. Donc bien sûr, le lecteur peut découvrir des informations du point de vue de chacun des personnages. Ensuite, je joue aussi un peu sur, surtout dans La Mer des Eaux, sur la frustration que le lecteur peut avoir justement sur le non-partage des informations entre les personnages et les raisons qui font qu'ils ne se transmettent pas les informations qui pourraient les sauver, mais qui ne partagent tout de même pas. Donc j'essaye de jouer là-dessus.
Emmanuel ?
Oui, alors moi, si je me souviens bien, parce que peut-être c'est pas moi qui ai écrit le roman, si je me souviens bien, non, là, le lecteur et les personnages sont un peu au même point, on va dire, et découvrent même jusqu'au bout, au fur et à mesure, ce qui se passe. Parce que je voulais vraiment de ça, et je voulais vraiment d'une fin. J'irais pas dire à twist, parce que sinon, justement, on va revenir à Shyamalan. Mais oui, pour moi, c'était important que le lecteur n'en sache pas trop et puisse avancer toujours dans les pas des personnages et surtout se faire sa propre idée. En fait, j'aime beaucoup le non-dit. Et du coup, je voulais aussi laisser au lecteur une part d'interprétation jusqu'au bout, sans savoir qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi, comment. Quitte à ce que, évidemment, certains lecteurs aussi puissent me le reprocher. Mais moi, j'aime ça, donc j'ai avant tout écrit ce que j'avais envie de lire en tant que lecteur.
Il y a du mérite aux deux approches, je trouve. Règle générale, j'ai tendance à rester proche des personnages, donc les questions qui hantent les personnages vont être les questions qui hantent le lecteur, donc ça facilite l'identification du lecteur au personnage. On vit le mystère dans leurs souliers. En même temps, j'ai voulu m'offrir un petit peu des deux avec ce roman-là. Donc, j'ai quelques petits passages où est-ce que je tombe plus en mode omniscient et puis où est-ce que je laisse savoir que le rôdeur menace. Je laisse savoir. J'en partage un petit peu avec le lecteur juste pour donner des indices de ce qui s'en vient. On peut jouer sur tous les plans.
Et ce genre donc de choses qui sont des techniques littéraires, des techniques narratives, on sait qu'on peut les apprendre dans des ateliers d'écriture. Vous avez pratiqué les uns et les autres les ateliers. Par exemple, vous êtes au Canada. Je suppose qu'il y en a plus que chez nous. Vous avez pratiqué les ateliers d'écriture pour apprendre ce genre de choses.
C'est beaucoup par la lecture, plus que n'importe quoi d'autre. C'est vraiment par la lecture que j'ai été formé. J'ai suivi des ateliers un peu, mais encore là, ouais, pour le suspense, ça, en plus de mes lectures de fiction, j'ai lu des livres sur l'art d'écrire, des auteurs qui se soucient beaucoup des mécaniques de la chose. Comment on place les enjeux, comment on fait bien sentir les enjeux pour que l'action paraisse plus intense par la suite. J'ai commencé à donner des ateliers moi-même, donc j'inflige mes idées maintenant à des pauvres auteurs débutants en espérant que ça leur serve.
Rose Marty, vous avez...
Oui, j'ai suivi au moins 3 ans des ateliers d'écriture. Par contre, l'atelier auquel j'ai participé, c'était des ateliers mixtes. Donc, il y avait tous les genres de textes. C'était pas spécialement pour le thriller ou le fantastique. Ensuite, alors je sais pas comment ça se passe au Canada, mais en France, en tout cas, il n'y a pas vraiment on nous enseigne pas de technique d'écriture ou de règles. C'est plus un espèce d'accompagnement pour garder le souffle jusqu'à la fin de son manuscrit, plus qu'autre chose. Donc c'est un espèce de partage de ses textes, mais il n'y a pas vraiment d'enseignement de technique.
Ouais, par chez nous, c'est plutôt varié. Il n'y a pas tant d'organismes officiels, disons, de formation. Ben, évidemment, il y a les programmes de création littéraire à l'université. Moi, ma formation universitaire est en informatique, donc j'ai manqué tout ça. Mais sinon, il y a des formations assez variées par une variété de formateurs. Donc, on peut. Il y en a qui sont beaucoup dans la philosophie de la chose, d'autres qui sont beaucoup dans la mécanique de la chose.
Alors, allez-y.
Ah non, mais moi, j'en avais pas fait, donc de toute façon, je pense pas que ma réponse intéressera grand monde.
D'accord. Alors, vous parliez, Emmanuel, justement, des réactions des lecteurs face à des récits. Alors, des fois, les lecteurs sont pas contents parce que ça se finit pas comme ils auraient voulu que ça se finisse. Ça prend des chemins qui sont pas les bons. La fin, ça va pas. Et alors, j'ai lu dans Solaris... 191 été 2014, un court texte d'Éric Gauthier qui s'appelle « Pour une littérature hors la loi ». Je vous le conseille. Donc, ça se passe dans un très court futur, parce que, en fait, George Martin vient de sortir le tome suivant du Trône de Fer. Donc là aussi, il a le droit à des réactions, etc., etc. Et donc, il est beaucoup question des lecteurs. Alors, les gens se plaignent, évidemment, de beaucoup de choses par rapport à ce texte. Et il y a un paragraphe en particulier que je vais vous lire sur le rapport entre les lecteurs et les auteurs. Pendant ce temps, le débat s'étendait au milieu francophone. Un groupe nommé « Au bonheur des lecteurs », s'inspirant des droits imprescriptibles du lecteur qu'avait proposé Daniel Pénac, tenta de faire reconnaître une liste des devoirs incontournables de l'auteur. L'auteur avait le devoir de publier ses romans dans des délais raisonnables. L'auteur avait le devoir de donner à chaque livre une finale compréhensible qui remplissait les promesses de son début. L'auteur avait le devoir de continuer à produire des romans dans le style et le genre par lequel il s'était fait connaître. Pénac n'émit aucun commentaire. Il était mort de sa belle mort quelques mois plus tôt, juste à temps pour se retourner dans sa tombe. Vous pensez quoi?
Et je veux dire, s'il y en a que ça amuse, il me semble que j'ai rendu le texte entier disponible sur mon site web à ericgauthier.net. Donc, vous pouvez aller chercher là et puis découvrir le futur de la littérature.
Trois pages. Qu'est-ce que vous pensez de ces droits du lecteur, enfin, en général, des réactions en fait, des lecteurs face à des fins qui ne seraient pas... ou à des livres suivants qui s'inscrivent pas dans ce que vous avez écrit avant, enfin des choses comme ça, des réactions de lecteurs en général.
Je pense que les lecteurs ont forcément le droit de s'exprimer, hein, de faire part de leur doléance. Après, est-ce que l'auteur est là pour les satisfaire? Je pense pas que ce soit non plus le but premier. En plus, exiger qu'un roman soit publié. Moi je veux bien, hein, mais ça dépend aussi de l'éditeur parfois. Je vois ça pas mal avec. Comme je m'occupe aussi du site elbakin.net qui suit l'actualité de la fantasy. On a vu ça récemment avec Patrick Rothfuss, l'auteur du Nom du Vent, où les fans sont de plus en plus impatients de voir arriver le tome 3. Au point d'être franchement parfois très très remonté. Mais tant que l'auteur, lui, s'est pas forcément engagé, et puis même il se serait engagé à telle chose, tout le monde peut avoir des aléas dans la vie. Je veux dire, on n'est pas prisonnier quand même de ses lecteurs. Donc moi, j'écoute ce qu'on me dit. Après, ce que j'en fais, ça dépend vraiment de ce que j'estime... intéressant ou vraiment totalement farfelu.
Christophe, vous sentez des obligations envers vos lecteurs?
Christophe, tu parles plus assez.
Vous aurez remarqué que je l'ai fermé un long moment. Moi, je parle pas longtemps, je parle fort.
Est-ce que vous vous sentez des obligations?
Oui et non. C'est-à-dire que moi, j'essaye de faire l'histoire la mieux possible pour moi, mais pour le lecteur aussi. Et quand un lecteur me dit que, là, par exemple, la fin ne lui a pas plu, je le prends mal, comme si j'offrais un cadeau à quelqu'un qui me dit « mais c'est de la merde » à quelqu'un que j'aime. Quelqu'un que j'aime pas. Un, je ne fais pas de cadeau. Et deux, si ça ne lui plaît pas, je m'en fous. Mais je le prends mal parce que le but, c'était quand même de faire le mieux pour lui. Et si ça ne lui plaît pas, j'ai raté mon coup, en fait. Même si moi ça me plaît, quand on offre un cadeau, ça se fait ça aussi d'offrir des cadeaux qu'on aimerait recevoir, mais il faut aussi penser.
Messieurs, il me reste à vous remercier puisque le temps qui nous est imparti est écoulé. Merci beaucoup pour cette conversation et bonne continuation sur le festival. Au revoir.